Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour notre chronique d'histoire locale. On était ensemble la semaine dernière avec Pierre Legrand. Bonjour Monsieur Legrand.
Bonjour.
Pour parler du thème de l'histoire de la nature, donc nature, environnement, écologie. Et on a expliqué la semaine dernière que c'est des thèmes largement débattus aujourd'hui dans les informations, les médias en parlent beaucoup, mais ça a été des sujets qui ont toujours été d'actualité, qui ont toujours été évoqués dans notre histoire. Et donc, on a expliqué la semaine dernière qu'il faut présenter ces différents sujets de façon objective, ne pas être non plus trop catastrophiste. C'est un petit peu la présentation qu'en font les médias aujourd'hui, en parlant uniquement des catastrophes climatiques, en parlant d'urgence, etc. Donc, Monsieur Legrand nous a appris finalement une façon un petit peu différente de présenter les choses. Et donc, il y a plusieurs choses à aborder. On va parler cette semaine, pour compléter le débat de la semaine dernière, on va parler des énergies alternatives. Donc, on va parler d'éolien, de photovoltaïque, etc. Donc, Monsieur Legrand est bien placé pour aborder ces différents sujets parce qu'il a été agriculteur à Sougy et puis il a été président du conseil d'administration de la sucrerie d'Artenay. Et donc, la production d'éthanol, c'est quelque chose qu'il connaît bien. Pourquoi on a été amené à en produire à Artenay, il nous expliquera ça tout à l'heure. Donc, Monsieur Legrand, quelles sont les solutions aujourd'hui pour produire de l'énergie? Quelles sont ces solutions alternatives, donc?
Alors, bonjour. En ce qui concerne la semaine dernière, nous étions restés avec, en deuxième partie, avec un livre de Monsieur François Gervais, qui était un ancien du CNRS et qui nous avait... un long moment, on parlait des problèmes climatiques, du réchauffement et ainsi de suite. Et je continue avec lui pour parler des énergies intermittentes. Alors, Monsieur Gervais n'est pas favorable aux énergies intermittentes. Les énergies intermittentes, alors ça va être l'éolien, c'est le photovoltaïque. Alors pourquoi? D'abord, en vérifiant mes factures d'électricité des mois de janvier 2007, 2012 et 2020, je constate une évolution des taxes. Taxes sur la consommation finale d'électricité, taxes service public d'électricité, contribution tarifaire d'acheminement électricité. En 2007, une seule taxe représentait 5,63% de l'abonnement plus la consommation. En 2012, trois taxes représentent 22,42%. En 2020, nous sommes à 31,60%. Ces taxes servent à faire payer les prix de l'éolien et du photovoltaïque supérieurs au prix de revient de l'électricité d'origine nucléaire.
Donc ce que vous nous dites, c'est que finalement, c'est un petit peu le gouvernement qui nous invite à... En nous faisant payer ces taxes, il nous invite à participer au développement de ces énergies alternatives.
Oui, parce que de toute façon, quand on connaît la situation économique d'EDF, elle est franchement pas bonne. Oui. Faut pas être pessimiste, mais il faut être réaliste quand même. Depuis trop longtemps, EDF, on lui a fait reprendre de nombreux dossiers qui étaient en situation financière délicate. C'est le dossier Areva, qui, à mon avis, a coûté beaucoup d'argent à la France.
Le démantèlement des centrales nucléaires.
Alors, le démantèlement des centrales, on en parle puisqu'on vient de fermer Fessenheim. Valeur aujourd'hui, je ne sais pas combien ça va coûter. Bon, ça va certainement coûter cher parce qu'il va falloir prendre certainement beaucoup de précautions. Mais on ne sait pas. Alors, est-ce qu'on va commencer à faire une cagnotte pour le démantèlement à terme? Mais Fessenheim aurait encore pu tourner au minimum 10 ans, peut-être plus. Était-il nécessaire de le fermer? On en a déjà parlé la semaine dernière, mais je reviens dessus parce que ça me semble un dossier qui est quand même assez grave pour la situation de l'énergie en France.
En tout cas, EDF le prend en charge, ce dossier, parce qu'on a entendu parler du projet Hercule autour de l'évolution du groupe EDF, quoi.
Oui, alors je crois que sur ce dossier-là, tout le monde est assez embêté. Comment faire passer l'addition, mais je crains que tout le monde soit obligé d'en prendre une petite partie, et en particulier les consommateurs.
Oui. Donc, Pierre Legrand, donc on parlait de l'électricité, de Fessenheim. La France doit continuer la production d'électricité nucléaire. Finalement, on disait la semaine dernière qu'on était le bon élève en Europe et même dans le monde sur cette part de l'énergie nucléaire dans la production d'énergie en France.
Et alors, je pense que nous sommes le bon élève et je pense qu'il serait dommage d'arrêter le nucléaire. Je pense qu'il faut continuer de le faire vivre avec des techniques qui vont sans doute s'améliorer. On est en train de construire une nouvelle centrale dont j'oublie un peu le nom. Là.
Oui, en Normandie.
En Normandie. Oui. Ma centrale qui va nous coûter excessivement cher parce qu'elle devait être construite en 3 ou 4 ans et puis ça fait plus de 10 ans et puis on ne sait encore pas quand est-ce qu'elle va être construite.
C'est Flamanville, je crois.
Oui, voilà. C'est sur le site de Flamanville. Ce que l'on sait, c'est que si la France a fait pendant dans la période un peu avant et après 70, où on a construit beaucoup de centrales, en France, on avait le savoir-faire dans le nucléaire. Et puis, on a arrêté totalement. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on ait moins de personnes capables de le faire. Mmh. En disant cela, je sais quand même que des gens d'EDF sont allés travailler en Chine. Mmh. Et la Chine vient de mettre en service des nouvelles centrales. En Chine, en moins de 5 ans, on démarre et on fait tourner une centrale.
Donc finalement, le bon côté de la chose, c'est que la Chine va également être un bon élève en matière de production d'énergie. Donc.
C'est vraisemblable. Il semblerait qu'en Chine, ce soit une nouvelle intéressante, mm-hmm. parce que de la pollution, il y en a, paraît-il, beaucoup dans ce oui. pays. Donc espérons que nos dirigeants politiques auront peut-être la sagesse de ne pas arrêter trop vite le nucléaire mmh. et de continuer, je l'espère, à le faire vivre. Okay. Avec le maximum de sécurité, parce que ça, c'est la première des règles.
Oui, bien sûr. Pierre Legrand, donc on a parlé du nucléaire. Dans les énergies alternatives, aujourd'hui, il y a également l'hydrogène.
Alors, moi, je pense que l'hydrogène va être vraisemblablement l'énergie de demain. Ça fait déjà quelques années qu'on a des voitures en France qui roulent avec de l'hydrogène. Ce sera d'une part beaucoup plus facile que l'électricité parce que avec quelques kilos d'hydrogène compressé à, je crois que c'est 700 bars, mm-hmm. alors c'est une pression énorme, on aura peut-être 5 litres d'hydrogène qui permettrait peut-être de faire 500 km, alors qu'avec une voiture électrique, pour faire 500 km, il va falloir un poids de batterie qui soit, à mon avis, conséquent. Je crois que la Tesla, aujourd'hui, est peut-être la voiture qui permet de faire cette distance-là. Mm-hmm. Je ne connais pas le coût. Je ne sais pas ce que coûtera l'hydrogène. Parce qu'en plus, l'hydrogène, on saura le produire mm-hmm. Plus facilement que quand on n'aura plus de pétrole, on saura toujours faire de l'hydrogène.
Et puis finalement, cet hydrogène, c'est une énergie non polluante. Parce que peut-être qu'on dit à tort que l'électricité, enfin les voitures électriques, c'est non polluant par rapport aux énergies fossiles, mais en fin de compte, pour faire rouler des voitures électriques, on a besoin d'énergie électrique, et pour produire de l'électricité, on brûle du carbone, on dépense de l'énergie fossile.
C'est évident, on veut nous faire tous acheter une voiture électrique le plus vite possible, mm-hmm. puisque les dernières mesures gouvernementales vont dans ce sens-là. D'ailleurs, pour quelqu'un qui veut s'acheter une voiture électrique, je crois qu'aujourd'hui, il y a des aides mm-hmm. conséquentes. Donc, est-ce que c'est viable sur du long terme ? On peut s'interroger.
Oui. Donc, en fin de compte, ces aides gouvernementales, c'est un petit peu nos impôts. Donc, c'est nous qui favorisons l'électrique. Donc, peut-être qu'il vaut mieux favoriser l'hydrogène, alors.
En appelant les choses par leur nom, c'est bien ce que vous venez de mm-hmm. dire.
En tout cas, on est moins en avance sur l'hydrogène que sur l'électrique. Je ne sais pas où en sont les autres pays, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'il faut aller aujourd'hui.
Oui. Alors, en France, je crois qu'actuellement, on a 25 stations où on peut trouver de l'hydrogène en mmh. bordure des routes ou des autoroutes. Mmh. Bon, aujourd'hui, si avec 500 km, 25 stations, on peut déjà rouler pas mal. Mmh. Surtout que avec le téléphone, vous allez savoir où il y a les stations, donc c'est relativement facile. C'est comme pour de l'éthanol, on sait facilement où il y en aura. Oui, alors l'avantage de l'hydrogène, c'est que les rejets, c'est de l'eau. Donc là, il n'y a pas de pollution, quoi. Et alors par contre, reste le coût de l'énergie nécessaire pour produire l'hydrogène, mais c'est peut-être des coûts qui sont appelés à diminuer par les volumes qui pourront être faits, quoi.
Donc c'est comme pour les voitures électriques, finalement, il y a des conséquences et des coûts cachés, la chose qu'on ne voit pas. On imagine que c'est une énergie propre à 100%, mais non, l'hydrogène, il faut le fabriquer, quoi.
Sous forme de boutade, je dirais qu'à part la marche à pied, tout pollue.
Oui. La marche à pied, le vélo, mais maintenant on a goûté au confort
c'est vrai,
du véhicule à essence ou électrique, et donc on n'a pas envie de revenir en arrière.
Non, pas trop, moi le premier. Hein.
On a parlé d'hydrogène, d'électrique, il y a d'autres alternatives?
Alors, on parle aujourd'hui de microalgues pour produire des carburants. La production de microalgues permettrait d'extraire de l'huile pour la carburation.
Donc finalement, ça c'est un petit peu comme le colza, un petit peu.
Oui. Alors je pense que je suis pas un spécialiste, mais si j'ai bien compris, on pourrait produire des microalgues. On les produirait pas nécessairement au bord de mer, comme on pourrait l'imaginer, mais derrière une usine qui va rejeter du carbone, on pourra avoir des chaînes de production d'algues en continu. Et qui permettrait peut-être de produire des huiles qui iront diesel ou... Là, je ne sais pas trop. C'est un peu futuriste, mais à mon avis, il y a des productions déjà actuellement qui sont en place en France. Hein.
Oui, donc ce sera peut-être une solution alternative moins problématique, entre guillemets, que le colza ou d'autres ressources qui sont plus coûteuses en énergie.
Là, pour les microalgues, je ne connais pas le prix de revient, donc je préfère ne pas répondre. Je ne sais pas quelle sera la position.
Mais en tout cas, je pense qu'il y a des budgets de recherche qui sont investis dans ce domaine-là.
Oui. Alors, par contre, le colza, on sait quand même faire. Hein. Mmh. On a quand même en France quelques sociétés qui triturent le colza. Mmh. On en extrait l'huile. Et cette huile peut aller en mélange direct avec du gasoil, ou alors aujourd'hui on a même des moteurs, bus ou camions, qui tournent uniquement avec de l'huile de colza, et ça s'appelle le COC 100. C'est produit dans la Vienne.
Oui, et ça permet de faire tourner des moteurs pour des bus, pour des camions.
Bus, camions. Ah, ouais. Faut pas oublier que bon, dans les villes, peut-être qu'on aura le bus électrique, comme on pourra avoir la voiture électrique. On en a déjà aujourd'hui. Mais pour tout ce qui est transport routier, je sais qu'on a aussi le chemin de fer, qu'on pourrait sans doute beaucoup mieux utiliser qu'on ne l'utilise.
C'est encore un autre débat, ça.
C'est un autre débat, mais là, je ne m'y engage pas. Mm-hmm. Par contre, on voit que sur nos routes, on a encore beaucoup de camions pour assurer les transports. C'est quand même assez souvent cette méthode qui est la plus efficace pour alimenter les entreprises, au niveau fiabilité et peut-être coût de revient. Donc, on pourrait avoir des camions qui tournerait avec de l'huile de colza.
Parce que finalement, pour résumer, un moteur thermique peut fonctionner soit avec du pétrole, c'est-à-dire de l'énergie fossile, ou bien avec de l'alcool produit à partir de colza ou de microalgues, comme on disait.
Alors, non. Alors l'alcool, on le produit à partir des plantes saccharifères, betteraves ou canne à sucre, ou l'amidon des céréales.
D'accord.
Les huiles, c'est uniquement à partir des produits oléagineux, donc le tournesol, le colza.
D'accord.
Les algues, c'est possible que l'on produise une huile, mais là, je sais pas, j'ai pas de certitude, donc je sais pas. Mais à mon avis, ça pourrait être des huiles.
D'accord. Mais en tout cas, bon, on en parlera tout à l'heure de l'éthanol produit à partir de betteraves, comme vous disiez. Donc ça, c'est peut-être quelque chose de déjà développé, ça fonctionne déjà.
Et, écoutez, on a un parc de... Ben, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, oui. On parle un petit peu, donc, parmi les solutions alternatives, on parle de méthanisation également. C'est à l'ordre du jour.
Oui, alors, la méthanisation, ben, c'est le méthane que l'on va produire à partir de matières organiques. C'est un méthane de bio, puisque c'est l'énergie solaire qui permet de faire pousser les plantes.
On me dit en studio qu'on va être obligé de faire une petite coupure. On repart sur la méthanisation dans quelques minutes, d'accord ?
Merci.
Merci, monsieur Lefond.